Karine Bécart, votre invitée à présent. François Ruffin, le député de la France Insoumise de la Somme.
Bonjour François Ruffin.
Bonjour.
Merci d'être sur France Inter ce matin. Vous serez cet après-midi place de la République à Paris pour défendre une nouvelle fois ces invisibles, ces premières de cordée, comme les avait appelées pendant le premier confinement le président Macron, ces femmes qui exercent ce que vous avez nommé des métiers du lien, c'est-à-dire des métiers qui sont essentiels pour les gens au quotidien, mais qui sont pas reconnus, très peu rémunérés et en réalité quasiment ignorés. François Ruffin, après une proposition de loi que vous avez portée à l'Assemblée, après un film que vous leur avez consacré, depuis tout ça, qu'est-ce qui a changé ?
Pas grand-chose. Quand on regarde aujourd'hui les agents d'entretien, qui sont des femmes essentiellement, les auxiliaires de vie sociale, les assistantes maternelles, il y a eu un rapport qui a été rendu et qui montre qu'elles sont très 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 majoritairement sous le SMIC et sous le seuil de pauvreté, alors même qu'elles ont une amplitude horaire qui est énorme, puisqu'elles commencent tôt le matin pour aller ouvrir les volets de la personne âgée, pour lui donner à manger, pour la sortir de son lit. Elles reviennent le soir, mais au milieu, il y a un gros trou, et tout ça n'est pas payé. Et donc, voilà, il y a presque rien qui a changé sur ces questions-là, alors que le président de la République nous disait qu'il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, mais il est temps de s'en rappeler maintenant.
Voilà, et deux ans, il ne s'est pas passé grand-chose.
Non, vraiment, des queues de cerises, quoi. Alors, on a obtenu la prime Covid pour les auxiliaires de vie sociale. Moi, tout ce qui peut être gratté, je le gratte. Hein. On a obtenu le 13e mois pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Mmh. Voilà, je le prends. Mais il est évident que, quand on voit là, la campagne électorale qui se passe, le thème de cet après-midi, c'est pas de présidentielle sans les essentiels. Et les agriculteurs ont leur salon. Le MEDEF, quand il le veut, il convoque tous les candidats et ils viennent et il y a des propositions de cadeaux.
Donc vous proposez un salon
J'essaye d'être le lobby des femmes d'entretien, des femmes de ménage, le lobby des auxiliaires de vie sociale, le lobby des animatrices périscolaires pour poser cette question-là dans la campagne, pour faire qu'elles ne soient pas à nouveau les grandes oubliées. Comment on peut accepter un ordre social qui repose sur cette injustice majeure où on nous dit elles sont indispensables et de l'autre côté, pourtant, on va les payer sous le SMIC. Enfin, moi, ça me paraît impensable. Et donc, il y a des tas de rapports qui ont été rendus et qui montrent que ça continue, quoi.
Alors, malgré tout, si on regarde bien les programmes de la plupart des candidats à cette élection présidentielle, presque tous reconnaissent aujourd'hui qu'il y a un problème de salaire dans notre pays. Même la candidate de la droite, Valérie Pécresse, qui propose d'ailleurs de les augmenter, ces salaires. Donc vous avez quand même en partie gagné votre pari, François Ruffin.
D'abord, entre les paroles et les actes, vous savez, moi il y a un chemin qui est immense entre les promesses des candidats et les réalisations sur ce terrain-là des futurs présidents, présidentes. Il y a quand même un chemin qui est gigantesque. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, on ne résoudra pas cette question-là par les salaires. C'est-à-dire on ne résoudra pas ça en augmentant 2%, 5%, 10% le taux horaire.
C'est le statut. J'y crois pas. Qu'il faut changer.
C'est les horaires qui sont la clé de voûte de tout ça. C'est-à-dire que si on ne compte que le petit temps d'intervention chez la personne âgée, mais que le temps de déplacement est pas compté, que le temps de pause, on n'y arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut construire. Moi, je porte ça du travail en tournée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous travaillez, je sais pas, de 6h du matin à 13h, ou de 7h à 14h pour les salariés de chez Valeo que je rencontrais hier. Eh bien, il faut de la même chose pour les auxiliaires de vie sociale et faire que elles arrivent à leur travail à 7h du matin, elles repartent à 14h, et il y a une deuxième équipe qui vient l'après-midi de 14h à 21h. Avec un double avantage. Le premier avantage, c'est évidemment temps plein, salaire plein, alors qu'aujourd'hui on a des faux temps partiels pour des vrais salaires partiels. L'autre avantage, c'est de pouvoir avoir une vie sociale, une vie familiale à côté. Je vois une femme de ménage que je croisais là à l'Assemblée qui était paniquée au téléphone. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a, Anna, ça va pas ? C'est la maîtresse de ma fille qui m'appelle parce que ma gamine, elle est partie à l'école sans son cartable. Fortement, la maman, elle part à 4h du matin, ça veut dire que la fille, elle se lève toute seule, elle se lave toute seule, elle s'habille toute seule, elle part à l'école toute seule.
Alors vous venez de passer 5 années à l'Assemblée, députée de la Somme, ça a été rappelé par Éric Delvaux. Combien de combats, vous en avez mené beaucoup, mais combien de combats vous estimez avoir gagné ?
Quelques-uns de manière marginale. Le congé de deuil, par exemple, pour les parents qui ont perdu un enfant. Ça c'est un combat qui a été gagné, je l'ai dit le 13e mois pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, mais maintenant j'ai 99,72% d'amendements rejetés. Donc voilà mon score, et en vérité, je me demande ce que sont les 0,28% restants.
Et pourtant vous rempilez.
Oui, parce que je le savais dès le départ, la loi ne se fait pas à l'Assemblée. C'est une illusion. C'est une illusion qu'il faut dire aux Français. C'est pas là-bas que ça se passe. Le président de la République décide des lois. Elles sont fabriquées technocratiquement par les ministères. Elles sont enregistrées à l'Assemblée nationale.
Mais alors pourquoi vous candidatez à un deuxième mandat ?
Il y a une deuxième fonction de l'Assemblée nationale que j'ai vue fonctionner, dans mon cas, avec efficacité, c'est-à-dire une caisse de résonance.
Ouais, c'est la tribune que ça offre.
Il est évident que la possibilité de parler des agents d'entretien, j'en suis fier. Vous savez, ça fait 20 ans, moi, que je me bagarre là-dessus, que je me bagarre pour elle. Ça fait 20 ans que je cherche à parler du protectionnisme en matière d'industrie. Ben, le faire à la tribune de l'Assemblée nationale, ça offre une caisse de résonance.
Un impact énorme.
Et je ne serai pas ce matin chez vous
invité
si jamais
je n'étais
pas député.
Si.
Non, c'est pas vrai.
Vous resterez un député insoumis ou pas ?
Insoumis, vous savez, j'ai pas attendu d'être dans un groupe pour l'être. Donc, je demeurerai. Et de toute façon, aujourd'hui, je suis avec Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne. Je pense, par exemple, sur ces métiers-là. Si on veut une vraie revalorisation de ces métiers-là, ça passera pas par la candidate de la droite que vous avez citée, Valérie Pécresse, mais bien plus nettement par Jean-Luc Mélenchon. Si aujourd'hui, on veut que les premières lignes, parce que ça, c'est les deuxièmes lignes, mais les premières lignes à l'hôpital, eh bien, on ait de quoi fonctionner pour l'hôpital public, je pense que ça passe bien davantage par la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
François Ruffin, est-ce que vous avez quand même choisi le bon moment, sincèrement, pour organiser cette mobilisation en pleine guerre en Ukraine? Vous affichez d'ailleurs votre solidarité.
D'abord, vous savez, pour les femmes de ménage, pour les auxiliaires de vie, c'est jamais le bon moment. Il y a toujours autre chose. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dis tout mon soutien évident aux Ukrainiens, tout mon soutien aux Russes
voilà,
qui manifestent.
Voilà, vous avez un petit ruban bleu et jaune sur la poitrine.
Et puis, sur la place de la République, sur la deuxième moitié de la place cet après-midi, il y aura une manifestation pour l'Ukraine. Et il est évident que j'irai saluer la manifestation. Peut-être que je ferai quelques centaines de mètres avec elle, parce que le film, moi, je l'ai déjà vu. Donc, voilà. Maintenant.
Mais vous allez être inaudible. Ouais. On ne va pas vous voir, on ne va pas vous entendre.
Ça dépendra de vous. Ça dépendra aujourd'hui des médias qui décident de parler de la guerre en Ukraine, et ça va de soi, c'est une évidence. Mais aussi, qui peuvent interpeller les candidats, qui peuvent interpeller Valérie Pécresse, qui peuvent interpeller Emmanuel Macron sur qu'est-ce que vous allez faire pour les auxiliaires de vie, qu'est-ce que vous allez faire pour les agents d'entretien. C'est un choix des médias, c'est un choix des candidats d'en parler ou pas. Et par ailleurs, moi je veux qu'on change un état d'esprit. Moi j'ai le devoir de porter de la joie. On ne peut pas aller d'inquiétude en inquiétude. L'inquiétude climatique, l'inquiétude sur le chômage, l'inquiétude sur le Covid, l'inquiétude sur l'Ukraine, ça produit quoi ? Ça produit chez les gens de la résignation, ça produit de la désespérance. Moi, je lisais un bouquin là dernièrement d'un Allemand qui était jeune quand s'est développé le nazisme. C'était plutôt un jeune bourgeois, Sébastien Hafner, et il a cette phrase, il parle des Allemands, il dit « ils ont sombré par millions dans la dépression ». Et il montre comment la montée du nazisme a eu pour principal allié cette dépression-là. Moi, mon devoir, c'est de combattre cette dépression, de combattre cette résignation, de combattre cette abstention aussi, parce que la traduction électorale, ça va être ça.
Vous n'avez pas tort.
Vous savez, en 2017, vous parliez de ma candidature. Ouais. Je disais, mon adversaire, c'est la finance, bien sûr, mais c'est surtout l'indifférence. Et moi, je suis très content cet après-midi. Ça se passe en fanfare, ça se passe avec une projection. Oui, on doit pouvoir poser le mot bonheur encore. On doit pouvoir parler de ça.
Alors, je vais doucher quand même un peu votre enthousiasme pour parler quelques instants de la guerre en Ukraine et de la Russie. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il réclame la sortie de la France de l'OTAN ? Est-ce que c'est une ligne rouge que vous partagez avec lui ?
En tout cas, la France ne pourra pas se défendre sans alliés. Est-ce que ça doit se passer à l'intérieur de l'OTAN ? Est-ce que on doit avoir une confrontation de cette manière-là, qui doit être construite ? Je suis pas certain. Maintenant, la France, dans l'histoire, il peut y avoir d'autres types d'alliances que l'alliance de type OTAN.
Est-ce que c'est une guerre qui pourrait coûter cher électoralement à Jean-Luc Mélenchon ?
Non, mais vous savez, aujourd'hui, je pense pas que c'est sur ce terrain-là que ça se déroule de manière...
Ah, un petit peu quand même.
Est-ce que c'est une guerre qui doit coûter cher à Emmanuel Macron, alors qu'il nous a dit la veille de déclenchement de la guerre qu'il allait réconcilier Poutine et Biden ? Je pense que dans cette histoire-là, c'est une histoire qui est simple pour personne, que tout le monde a été pris par surprise.
Mais cette situation-là, vous la trouvez pas favorable quand même plutôt au président Macron ? Vous trouvez pas que la situation est plus favorable à Emmanuel Macron en ce moment qu'à Jean-Luc Mélenchon ? C'est ça que je voulais dire. On est à 5 semaines du premier tour.
Quand on a un président qui a publié une lettre, qui est une espèce de formalité administrative, il veut se faire... Il y a 5 ans, il a été candidat sans programme. Aujourd'hui, il voudrait être candidat sans campagne. Et dans une espèce de formalité administrative, dans un ça va de soi, puisque je suis le chef d'État, reproduisez-moi et j'ai même pas besoin d'aller me bagarrer pour vous auprès de vous. Donc là, il veut que ça soit une formalité. Nous, notre combat, vous savez, pour moi, je suis joueur de foot le dimanche matin, tout le temps je joue au foot. Pour l'instant, l'équipe adverse, elle vient juste de rentrer sur le terrain. Donc c'est pas le moment de dire si on va gagner ou si on va perdre. Il reste 90 minutes de jeu.
Merci François Ruffin. Je rappelle que la manifestation que vous organisez cet après-midi, donc place de la République à Paris, intitulée « Pas de présidentielle sans les essentiels », c'est à partir de 13h45. Bonne journée et bonne mobilisation.
Merci à vous.
Et dans un instant, le journal de 8h.